Radio Okapi.
Belinda Bosuma Mwamba pour le journal.
Un match de football soldé en bagarre rangé avec une dizaine de blessés. Cela s'est passé dimanche à Valou dans l'Ituri. À l'origine, un comportement antisportif de la part d'un fanatique. Le projet de loi modifiant la loi électorale sous examen depuis hier au Sénat, ce texte adopté par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition, a suscité un débat à la Chambre haute du Parlement. Et puis, cohabitation pacifique entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité, un forum a eu lieu dans ce sens récemment à Uvira, initiative de l'ONG internationale Set for Common Ground. Le dossier à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri, où 13 personnes ont été blessées après un match amical de football qui a opposé deux équipes de la chefferie de Walindoubindi. Cela s'est passé dimanche à Valou. Nous sommes à 82 km au sud de Bounia, en territoire d'Irumu. Des sources sur place rapportent que des fanatiques des deux équipes se sont affrontés, notamment avec des armes blanches. À la base, un comportement antisportif enregistré de la part de l'un des fanatiques après le match. Les militaires des FARDC ont dû intervenir pour éviter l'escalade des violences. Récit des faits avec Jean-Claude Loki.
Ce match opposait l'équipe Nouvelle Image de Kanyoro à celle d'Avalou, qui sont deux villages voisins. Cette rencontre, qui pourtant avait attiré beaucoup de monde, s'était soldée sur le score de 2-1 en faveur de la formation d'Avalou après le coup de sifflet final de l'arbitre. Un fanatique de l'équipe gagnante prend les ballons de l'équipe visiteuse et le tire dans la brousse. Un geste anti-sportif qui va susciter la colère des habitants de Kanyoro venus en grand nombre assister à ce match. Il s'en est suivi une bagarre rangée, des pierres fusent de partout, bâtons à la main. Tout le monde est passé à tabac, c'est la débandade totale. Personne retournait vite chercher des flèches dans leurs habitations et explique un témoin. Bilan, 13 blessés, dont 8 gravement touchés. Une personne reçoit même une flèche en plein ventre. Deux femmes copieusement torturées seront évacuées vers une structure médicale de la place. Des militaires des FARDC interviennent en vue de rétablir l'ordre et quelques personnes interpellées ont été relâchées hier lundi. Jérôme Tabou, chef intérimaire de Walindoubindi, promet de faire une descente sur le lieu en vue de s'enquérir davantage de la situation. Bounia, Jean-Claude Loukidile, Radio Okapi.
Et à propos de l'attaque des présumés ADF contre un camp des casques bleus sur la route Mbaoukamango, des réactions continuent à tomber. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, propose qu'au-delà des opérations militaires, la question de ravitaillement des ADF soit prise en compte. Il souhaite qu'il y ait une brigade qui prenne en charge la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Celle-ci aura pour mission de contrecarrer toute infiltration à partir de l'Ouganda. Au téléphone de Sifamaguru, Julien Paluku propose également ceci.
Primo, la brigade d'intervention soit dotée d'une certaine autonomie d'action sur le terrain et en lieu et place de cette grande machine administrative des Nations Unies. La deuxième manche du problème, c'est que au niveau de nos forces armées, effectivement, il faudrait que la brigade qui est arrivée sur le terrain pour devoir remplacer celles qui ont combattu il y a longtemps puisse également être en action avec toute la dotation nécessaire pour que la jonction de ces deux forces, de la brigade d'intervention et la brigade des FARDC, nous permette de mettre définitivement un terme avec l'occupation du terrain, c'est-à-dire de Beni à Kamango, pour qu'on se rassure que toutes les frontières ougandaises sont totalement contrôlées. Parce que la question qui est aujourd'hui soulevée, c'est l'approvisionnement de ces rebelles ZDF en armement, en médicaments et en logistique nécessaire. Et donc il est important qu'au-delà des affrontements, au-delà des opérations qui sont planifiées, qu'il y ait une autre brigade qui prenne en charge la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
Justice. L'avocat de Firmin Yangambi, bénéficiaire de la loi d'amnistie de 2014, saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de sa détention en application de l'article 12 de la Constitution qui dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Le président de l'ONGP sur Terre désapprouve sa détention à la prison centrale de Makala à Kinshasa alors que ses co-accusés amnistiés comme lui ont été libérés. Hier, son conseil a déposé la requête de son client à la Cour constitutionnelle. Écoutez à ce sujet, maître Jonathan Elo Okito au micro de Jeff Goy.
Notre requête est simple. Nous demandons l'application de la loi portant amnistie à M. Firmin Yangambi. Et ce, au nom du principe évoqué par l'article 12 de la Constitution qui dit tout simplement que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Pourquoi nous faisons allusion à tous les citoyens égaux devant la loi? C'est tout simplement parce que des co-accusés de M. Firmin Yangambi ont été libérés en vertu de la loi portant amnistie. Nous estimons que l'égalité voudrait que lui aussi, cette loi lui soit appliquée comme à tous les autres, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a été réservé comme suite?
La Cour constitutionnelle va signifier notamment au ministre de la Justice, qui est la partie à laquelle nous devons faire face dans ce dossier, et en déant 8 jours, au-delà de 8 jours, pardon, c'est là que nous allons avoir les précisions compte tenu de la suite. Pour leur permettre de préparer leur mémoire de défense, la Cour leur accorde 8 jours.
Justice toujours, notez cette réplique du ministère public hier au procès des présumés Kamuina Sapu. Le parquet militaire a requis le rejet des mémoires des parties prévenues. Il a demandé au tribunal de déclarer les moyens présentés par la défense recevables en la forme, mais non fondés dans le fond, faute des preuves matérielles. La partie civile a bondé dans le même sens, arguant qu'il n'y a pas d'obscurité dans les libellés d'actes d'arrestation. Selon le ministère public, les tortures dont se plaignent les prévenus ne sont pas non plus prouvées, quand bien même soutient-il que la plupart des Kasaïens gardent encore sur leur corps les cicatrices dues aux travaux des mines de diamants. La contre-réplique de la défense et du parquet est prévue demain mercredi avant que les juges ne prennent la cause en délibéré. Dans l'actualité, notez aussi que le Sénat a amorcé ce lundi, dans une salle pleine des députés nationaux et des journalistes, l'examen du projet de loi modifiant la loi électorale, un texte très controversé au sein de la classe politique. Ce texte, adopté le 4 décembre dernier par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition, a suscité un débat au niveau de la Chambre haute. Après la présentation de l'économie de cette loi par Emmanuel Chadari, 23 sénateurs ont pris la parole, soit pour demander la recevabilité de ces textes, soit en majorité pour demander son rejet, comme le dit ici Modeste Moutinga du G7.
S'ils étaient préoccupés par ces dispositions légales depuis 5 ans, on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, ils tentent de tricher au niveau du seuil, du cautionnement, ce qui n'est pas tout à fait légal. Ils tentent également de mettre en place un mécanisme discriminatoire qui viole gravement la Constitution. Tout cela n'est pas acceptable. On se rend compte qu'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de transparence dans ce qui est en train d'être fait. Le seul objectif qui est poursuivi et de mettre en place un parti dominant pour en tirer un grand profit. Nous plaidons pour la loi qui est en vigueur aujourd'hui, qui institue la proportionnelle au plus fort reste. Elle peut avoir ses faiblesses, mais donne beaucoup plus de moyens de contrôle, un peu plus de transparence que ce qui vient d'être proposé.
Pour sa part, le sénateur Moukeni Lapasse de la majorité présidentielle estime que le projet de loi sous examen n'est pas controversé. Étant déjà adopté à la Chambre basse, le Sénat devra le déclarer recevable, l'envoyer en commission pour un examen approfondi conformément à l'article 132 de la Constitution. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
D'abord, le projet de loi n'est pas controversé. C'est l'article 132 de la Constitution. Nous ne pouvons pas revenir au Sénat sur base d'un texte qui a été soi-disant déposé à l'Assemblée. Le texte que nous devons analyser froidement, c'est celui qui vient de l'Assemblée nationale. Alors, ce texte-là, contrairement à ce que les collègues sont en train de soutenir, ne fait aucune référence à la machine à voter. Nous avons parlé du seuil. Le seuil est parti de 3 à 1%. Et maintenant, nous sommes au niveau du cautionnement. Le vice-premier ministre a répondu qu'il appartient à la représentation nationale de pouvoir décider du niveau du cautionnement. Alors quand on demande au Parlement de faire son travail, parce que dans le calendrier, ça doit être publié pour le 15, pour que ce calendrier soit définitif, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas revenir au mois de mars. C'est purement technique, ce n'est pas émotionnel.
Par ailleurs, après les chefs des missions des États-Unis, du Canada et de la Suisse, c'est au tour de l'Union européenne de se prononcer sur le processus démocratique en RDC. L'Union européenne plaide pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et pacifiques, devant permettre de sortir de la crise politique actuelle dans le pays, tout en favorisant une alternance démocratique en RDC. Cet appel, ajoute l'Union européenne, est conforme à la constitution de la RDC qui limite le nombre des mandats présidentiels à la corps politique de la Saint-Sylvestre aux dispositions de la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mimi Ngumba Mulongo.
Comme l'ont dit les chefs de mission des États-Unis, du Canada et de la Suisse, les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la RDC interviennent après la publication du calendrier électoral. L'Europe écrit, je cite, « L'UE souligne la responsabilité du gouvernement et de la CENI à mettre en œuvre sans délai des mesures et actions pour garantir le respect de ce calendrier par un processus crédibilisé, légitime, consensuel et inclusif dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre », fin de citation, rappelant que le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine ont demandé à plusieurs reprises la publication des calendriers crédibles et consensuels. L'Union européenne estime qu'il est déterminant pour la légitimité des institutions de transition de garantir que la date des élections fixée au 23 décembre 2018 soit respectée. L'Union européenne souligne la nécessité de respecter la Constitution et de mettre en œuvre les mesures de décrispation afin de rétablir la confiance entre les acteurs concernés et apaiser les tensions. L'UE parle de la libération de tous les prisonniers politiques, de la fin du dédoublement des partis politiques, de la liberté de la presse et de réunion.
Vous avez reconnu la voix de Pascal Massirika. Direction Sud Kivu, des cas de naufrage sont devenus récurrents dans les eaux du lac Tanganyika en territoire de Fizi. Dernier cas en date, la nuit de dimanche à hier lundi, une embarcation à moteur en bois battant pavillon congolais, le HB Ulimwengu, a coulé avec une importante quantité de marchandises sur le large du village de Mizimu. Le bot quittait la province burundaise de Rumonge et voisine à destination de la presqu'île d'Ubwari lorsqu'il a été surpris par une vague violente. Aucune perte en vie humaine, témoigne le commissaire maritime à Uvira, Amani Mungazi, au micro de Fiston Ngoma.
Ils étaient déjà à quelques mètres de la rive. Il y a les pêcheurs qui se sont précipités. Ils ont réussi à sauver les passagers, à sauver les membres d'équipage. Ils ont réussi à sauver les deux moteurs qui étaient à bord de cette embarcation. Heureusement que tous les passagers étaient en gilet de sauvetage. Certains d'entre eux se jetaient déjà par-dessus bord. Mais au moins quand les pirogues sont arrivées, ils les ont repêchés. On n'a pas déploré les cas de perte en vie humaine. Sauf que l'embarcation ainsi que sa charge ont coulé. Les embarcations en bois ici chez nous font la navigation côtière. Et lorsqu'on fait la navigation côtière, on est toujours exposé à beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de roches, il y a des montagnes sous-marines, donc il faut vraiment que la RVF puisse baliser la partie littorale de la RDC. C'est-à-dire placer les signaux qui doivent indiquer les comportements à tenir pendant la navigation.
Cap sur le Kasaï central. Une soixantaine d'agents de l'état de Chimbulu accusent le comptable local Kasongandilonga d'opérer des ponctions sur leur salaire lors de la paye. En croire l'un d'eux, l'argent qui passait par la banque TMB a été confié à cet agent payeur depuis janvier dernier à la suite des événements liés au phénomène Kamuina Sapu. Mais aucune explication claire n'est donnée par rapport à cette situation, indique cet agent de l'état au téléphone de François Kadima.
Nous avons constaté une suspension exorbitante sur le salaire de chaque agent de l'État ici à Chimbulu. Il y a d'autres agents qui demeurent impayés depuis le premier trimestre, c'est-à-dire depuis le mois de janvier 2017, que le système de manipulation d'argent par les comptables ont commencé à payer. Il y a certains agents qui demeurent impayés jusqu'à présent, d'autres 3 mois, d'autres 4 mois, d'autres 5 mois. Quand le comptable vient payer et que ces agents réclament les arrières de leur salaire, il leur dit que l'argent est déjà versé dans les trésors publics, mais sans aucun document de reversement à la banque. Et cet argent, quand il est soutenu, il ne justifie pas pourquoi de cette soustraction.
Interrogé, l'incriminé affirme qu'il n'a jamais opéré des ponctions sur les salaires des agents de l'État à Chimbulu. La paye s'est faite toujours suivant des listes venant de sa hiérarchie. Écoutez plutôt l'incriminé Kasongandilonga.
La situation est située à partir de Kinshasa pour les impôts. C'est une situation connue il y a longtemps. On ne le faisait plus depuis que nous sommes dans une situation là. Maintenant, nous voyons que voilà comment ça débute comme on le faisait la fois passée. Quand quelqu'un est payé, le ministère est retienne. Nous suivons ce qui est mentionné sur les listings. Les listings viennent de l'idée de finance. On retient pour la pension, on retient pour l'impôt. Sur le même listing là, il y a les colonnes bien mentionnées. Mais il est pensé d'être payé, de le payer de totalité parce que j'étais informé qu'on a majoré 20 000 francs. C'est là où il y a l'incompréhension.
Actualité, Afrique Monde.
Commençons au Zimbabwe. Le congrès extraordinaire de la ZANU-PF débute ce mardi 12 décembre jusqu'à vendredi prochain. Ce sera le premier congrès du parti au pouvoir sans le président honoraire Robert Mugabe. À cette occasion, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, doit nommer ses deux vice-présidents. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est en visite officielle au Bénin, où elle s'est entretenue hier avec le président Patrice Talon et des membres de son gouvernement. Elle doit également rencontrer les responsables d'institutions financières, mais aussi le secteur privé et la société civile. Le FMI a accordé un prêt d'un peu plus de 150 millions de dollars sur 3 ans pour accompagner l'ambitieux programme d'action du gouvernement béninois. En France, une quarantaine des chefs d'État et de gouvernement sont présents au sommet climat qui s'ouvre ce mardi à Paris, sauf Donald Trump qui a rejeté l'accord de Paris signé par son prédécesseur. Pas grave, on fera sans lui, a déclaré en substance l'ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, accueilli ce lundi par la maire de Paris et présent à ce sommet dans le cadre du C40, initiative créée par plusieurs métropoles pour lutter contre le réchauffement climatique. Terminons en Iran, où un séisme de magnitude 6,2 a frappé ce mardi à la mi-journée la région de Kerman dans le sud-est du pays, selon le centre sismologique de l'université de Téhéran. La secousse a été ressentie à 12h13 locale dans une région déjà frappée le 1er décembre par un séisme de magnitude 6,0 n'ayant fait aucune victime, indique l'université. Une demi-heure environ après le tremblement des terres, la télévision publique iranienne a passé à l'écran un bandeau indiquant qu'aucune victime ni aucun dommage n'avait encore été constaté.